Au cours de cette session, on a approfondi d'importantes questions qui concernent la dignité de la personne. On a parlé du début de la vie, on a parlé de la fin de la vie et d'autres sujets. Et vous aurez tous saisi l'actualité de ces questions. Pourtant, notre session ne s'est pas réduite au moment de formation intellectuelle, mais ces temps de formation étaient imbriqués dans la prière, dans la participation à la liturgie. Parce que nous avons voulu mettre au centre de cette session la contemplation de Jésus, le vivant. En lui, la vie qui était auprès de Dieu s'est manifestée, elle nous est apparue, c'est le mystère de l'incarnation, et du cœur ouvert de Jésus sur la croix, cette vie jaillit jusqu'à nous pour nous transformer si nous l'acceptons. Et c'est là le cœur de notre session, le cœur de l'évangile de la vie. Le cœur, c'est Jésus qui nous donne sa vie. La contemplation de Jésus et hier des saints qui vivent pour l'éternité avec lui au ciel nous ont fait réaliser que notre bonheur est au ciel, que l'homme est fait pour la vie éternelle, pour le partage éternel de la vie divine, dans la contemplation du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Et cette vie éternelle, elle a été inaugurée en nous par le baptême, mais elle doit ensuite se développer chaque jour. Déjà en cela, nous comprenons que l'homme n'est pas maître de sa vie, puisque la vie, il la reçoit de Dieu comme un don. Au cours de cette session, nous avons aussi pris conscience, peut-être davantage, de l'existence d'un grand combat entre ce que Jean-Paul II appelle les cultures de la mort et les cultures de la vie. Il parle d'une conspiration contre la vie. Ce combat n'est pas surprenant, on le trouve dans l'Écriture dès le premier livre, la Genèse, et jusqu'au dernier, l'Apocalypse. On le trouve dans la vie du Seigneur, qui est passé par la mort avant de pouvoir ressusciter et remporter la victoire. Il n'est donc pas étonnant que nous aussi, nous soyons aux prises avec ce combat. Ce combat, on l'a expliqué, je ne vais pas revenir davantage dessus. On pense à tout ce qui a trait aux attentats contre la vie, donc avortement, euthanasie, la multiplication des guerres, quelque chose auquel on pense moins, mais qui est très important, justement parce que l'homme est un être spirituel fait pour le ciel. Eh bien, le combat regarde tout ce qui empêche le développement de notre vie intérieure. La civilisation du plaisir, du bruit dans laquelle nous sommes, de la distraction incessante, notamment par les réseaux sociaux, tout cela forme ce que Bernanos appelait une sorte de conspiration contre toute forme de vie intérieure. Et tout cela aussi empêche l'homme de parvenir, de réaliser le plan de Dieu sur lui. Il faut donc prendre conscience que notre monde n'est pas chrétien et que notre agir ne doit pas se modeler sur le monde présent, comme le demande saint Paul. Alors justement, dans cette situation où nous allons retourner dans ce monde, que faire, comme disait un tristement célèbre homme politique russe, Lénine. Notre session ne sera pas un feu de paille si nous accueillons l'invitation de saint Jean-Paul II à nous faire, chacun selon notre vocation, les apôtres d'un tournant culturel. C'est une expression que Jean-Paul II emploie dans Evangelium Vitae. Il appelle en effet les chrétiens à porter au monde l'évangile de la vie, tel que nous venons de l'approfondir, en disant que l'urgence de ce tournant culturel tient à la situation historique que nous traversons, donc à tout ce combat entre les cultures de la vie et les cultures de la mort. Et à un autre moment dans l'encyclique, il explique que ce tournant culturel est nécessaire pour que, je cite, « s'affirme une nouvelle culture de la vie humaine pour l'édification d'une authentique civilisation de la vérité et de l'amour ». Donc Jean-Paul II, en clôture de cette session, nous invite à nous engager pour réaliser la civilisation de l'amour. Et donc dans ce bref topo, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette civilisation de l'amour, parce que si on veut la réaliser, il faut qu'on ait en tête le but. Et puis ensuite, on verra quelles sont les conditions nécessaires pour réaliser cette civilisation de l'amour. Alors d'abord, qu'est-ce que la civilisation de l'amour ? Alors rapidement, d'où vient l'expression ? Un peu d'histoire. Alors, c'est au pape Paul VI que l'on doit d'avoir introduit cette expression dans le magistère de l'Église. C'était dans une circonstance qui n'est pas anodine pour nous, puisque c'était lors de l'homélie de clôture du jubilé de 1975, qui était cette année-là la nuit de Noël. Et je vous cite un peu plus longuement que ce que vous avez à l'écran, c'est vers la fin de l'homélie. « Ô Christ, toi qui t'es fait pasteur devant nous, qui marchons à ta suite, pressé d'atteindre dès maintenant un but qui soit à la fois digne et concret, comprendrons-nous le signe des temps qui n'est autre que l'amour du haut prochain ? La sagesse de l'amour fraternel qui a caractérisé le cheminement historique de l'Église en s'épanouissant en vertu et en œuvre qui sont à juste titre qualifiées de chrétiennes, explosera avec une nouvelle fécondité, dans un bonheur triomphant, dans une vie sociale régénératrice. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas la lutte, ce n'est pas l'avarice qui sera sa dialectique, mais l'amour, l'amour générateur d'amour, l'amour même que nous te portons à toi, ô Christ, découvert dans la souffrance et dans le besoin de notre semblable, quel qu'il soit. L'amour de l'homme pour l'homme. La civilisation de l'amour l'emportera sur la fièvre des luttes sociales implacables et donnera au monde la transfiguration tant attendue de l'humanité finalement chrétienne. » Donc à la fin de l'année sainte 1975, Paul VI veut que les grâces qui ont été données ne soient pas vaines, mais qu'elles portent tous les chrétiens qui ont été renouvelés par la grâce de l'année jubilaire à construire un nouveau type de société. Il faut se rappeler qu'on est en pleine guerre froide, avec l'affrontement entre deux blocs, le monde communiste avec la lutte des classes et une société matérialiste et sans Dieu, et un monde capitaliste où Dieu n'est pas forcément davantage présent et où, en simplifiant un peu, mais règne la recherche du profit, ce qu'ici dans le discours il appelle l'avarice. Et donc Paul VI envoie les deux systèmes dos à dos en disant « Nous, chrétiens, de par le nouveau commandement de l'amour qui nous demande d'aimer Dieu et notre prochain, nous pouvons et nous devons forger une nouvelle société. » Alors à ce point, on a deux questions, on peut faire deux objections à Paul VI, respectueusement bien sûr. C'est que spontanément, on pourrait se demander, mais en fait, est-ce que c'est légitime pour un chrétien de vouloir changer la société ? Alors c'est une question, il n'y a que les chrétiens qui se la posent, parce que tous les autres, ils veulent changer la société. C'est le moteur de toutes les révolutions au cours de l'histoire. Mais dans certains milieux laïcs, on fait cette objection aux chrétiens, et parfois les chrétiens se la font eux-mêmes. Est-ce que c'est juste de vouloir imprégner les sociétés des valeurs de l'Évangile ? Est-ce que ça ne conduit pas à imposer aux autres notre foi ? C'est une première objection. Et puis la deuxième, que je présente de manière un peu caricaturale, mais ce serait de dire, mais au fond, justement, le chrétien, il est fait pour le ciel, alors qu'est-ce que ça lui importe, la construction de la société ? Et en fait, les deux objections se rejoignent en disant, l'Évangile n'a aucune prétention ne doit avoir aucune prétention à influencer la construction de la société. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre ? D'abord, il faut effectivement partir de la primauté de l'ordre spirituel. On l'a dit, l'homme est fait pour le ciel, son bonheur est auprès de Dieu et il ne peut pas le conquérir par ses forces humaines. Donc la mission de l'Église, qui continue la mission du Christ, c'est de porter le salut aux hommes à travers les sacrements, le travail d'éducation spirituelle, l'annonce de la parole de Dieu, etc. En ce sens-là, l'Église n'a effectivement pas une mission politique, c'est-à-dire d'organisation concrète à travers un parti politique, à travers des prises de position, enfin des prises de responsabilité dans le monde politique, etc. La mission de l'Église sera d'abord d'ordre spirituel. Mais il faut aller plus loin, justement, parce que l'Église porte aux hommes le salut que le Seigneur nous a obtenu. Le Seigneur est venu sauver l'homme dans toutes ses dimensions. Et la vie sociale est une dimension intrinsèque de la personne. Ça appartient à la nature de l'homme d'être un être en relation, on l'a vu au cours de la session. Ça veut dire que ça le pousse à fonder une famille, mais aussi à vivre en société. Donc l'homme sauvé par le Christ, forcément, il va agir différemment dans le monde de la culture, dans le monde du travail, dans le monde de la société politique. Et donc c'est une première raison qui justifie que que l'Église, enfin que l'Évangile puisse changer la société, c'est que l'Évangile change le cœur de chaque homme et donc la société s'en trouve changée. Deuxièmement, le Christ est la vérité. Toute société repose sur un certain nombre de principes, une certaine vision de l'homme. Plus ces principes sont conformes à la dignité de l'homme, plus la société est bonne et entraîne l'homme à la vertu. Et donc nous, chrétiens qui avons la vérité, c'est un service à rendre aux hommes que d'utiliser cette connaissance que le Christ nous donne, qui est plus profonde que ce que l'homme peut connaître par ses seules forces, pour mettre en œuvre des principes justes qui puissent organiser la société. Et puis troisièmement, il y a le Christ est roi. Cette année, on célèbre les 100 ans de l'institution de la fête du Christ roi par Pie XI. Et cette théologie est très importante. Elle nous rappelle que le Christ, par sa mort et sa résurrection, s'est soumis toutes choses. Pour le moment, cette soumission, elle est encore cachée, mais elle est déjà réelle. Et nous, chrétiens, qui sommes membres du corps du Christ, nous avons pour mission de rendre toujours plus actuelle, toujours plus réelle, cette royauté du Seigneur. Et donc, c'est aussi en ce sens-là qu'il revient aux chrétiens d'ordonner les choses créées selon le plan de Dieu pour que justement cette royauté du Christ soit toujours plus réelle. Donc, en conclusion de cette première partie, tout ce qu'on vient de dire jusque-là, c'est pour légitimer le fait que, oui, l'Évangile peut et doit changer la société. Certes, il y a une primauté du spirituel sur le temporel, de la fin surnaturelle de l'homme par rapport à simplement la fin naturelle, ce qui veut dire que les réalités politiques ne sont pas une fin en elles-mêmes, ce serait justement le totalitarisme qui prétend faire le bonheur de l'homme sur cette terre. Et l'histoire, depuis la Révolution, mais pas seulement, est pleine d'exemples où, sous prétexte de réaliser le paradis sur terre, eh bien, on réalise l'enfer. Mais aussi, et c'est important de le comprendre, quand l'Église agit dans la société, elle ne le fait pas simplement pour améliorer un peu les conditions terrestres, ce serait ce que ferait une ONG, simplement de la philanthropie, elle le fait pour un motif théologique, pour que toute chose soit ordonnée selon le plan de Dieu. Alors, donc là, on a défendu la légitimité de s'engager pour instituer la civilisation de l'amour. Mais alors, maintenant, la question, c'est qu'est-ce que c'est cet amour qui doit animer cette civilisation ? Alors, Paul VI lui-même, dans une audience qui a suivi l'homélie dont on a parlé, a alerté sur l'ambiguïté de la notion d'amour. Il explique qu'il y a, en fait, ça vient de saint Augustin, l'amour peut coïncider avec l'égoïsme, et dans ce cas-là, on construit une cité toute terrestre, qui est contraire à un deuxième type d'amour, qui est l'amour de Dieu, qui seul peut être le fondement de la cité céleste, c'est-à-dire, comme il le dit dans l'audience, la civilisation de l'amour. Ici, notre père fondateur mettait souvent en garde contre la grande misère de l'amour humain, c'est-à-dire l'homme qui cherche à aimer par ses seules forces, puisque notre cœur est blessé par le péché originel, et donc les tendances de l'égoïsme sont présentes. Il nous appelait à distinguer entre l'amour comme Jésus aime et l'amour sentimental. Et la civilisation de l'amour, ce sera justement ce triomphe de l'amour comme Jésus aime. Jean-Paul II, aux jeunes de France, mais à tous les jeunes en 1980, avait dit, Père Bernard, il me semble, l'a cité, il appelait les jeunes à lever les yeux vers Jésus-Christ parce qu'il est l'homme qui a le plus aimé, le plus consciemment, le plus volontairement et le plus gratuitement. Tous, nous cherchons à aimer, nous pensons que c'est l'amour qui va nous apporter le bonheur plénier, mais nous avons du mal à comprendre qu'est-ce que c'est véritablement que l'amour, justement en raison des blessures de notre cœur à cause du péché originel. Eh bien, si nous voulons savoir ce qu'est l'amour, nous devons fixer les yeux sur Jésus. C'est lui qui nous montre ce qu'est vraiment aimer. Et si nous voulons avoir un résumé de cet amour selon le cœur de Jésus, eh bien, ce sont les béatitudes qui nous le donnent. Les béatitudes, on peut dire que c'est le portrait de Jésus. Et donc nous sommes appelés à faire passer ce portrait dans nos vies. Alors, Père Bernard a déjà explicité le contenu des béatitudes, alors je ne vais pas le reprendre, vous l'aurez dans le texte écrit. Ce que l'on peut souligner, c'est que les béatitudes sont paradoxales. elle met en premier plan des attitudes qui sont le contraire de ce que le monde lui encourage. Quand on dit bienheureux les doux, bienheureux les cœurs purs, bienheureux ceux qui sont persécutés, ceux qui pleurent, évidemment, c'est pas le système, la hiérarchie des valeurs que le monde nous propose. Et justement, dans Evangelium Vitae, Jean-Paul II appelle les chrétiens à renverser le système des valeurs, à mettre en premier l'être sur l'avoir, la personne sur les choses, le bien et la vérité contre le pragmatisme ou le relativisme. Donc, en fait, quand on se laisse transformer par la grâce qui nous configure à Jésus, qui nous donne de pouvoir aimer comme Jésus a aimé, eh bien, on devient en fait une sorte de révolutionnaire parce que on inverse les valeurs sur lesquelles le monde voudrait fonder la vie sociale. Et c'est cet amour-là qui est appelé à imprégner la société. Alors ça ne veut pas dire que la civilisation de l'amour, ce sera une société globale et universaliste, mondialiste, où tout le monde sera, ce sera tout le monde pareil, parce que l'amour, justement, va respecter les particularités propres à chaque culture, à chaque peuple, mais elle va les imprégner de l'intérieur pour les élever et les ordonner selon ce que Dieu veut. Alors si on en reste là, vous pourriez dire, bon, c'est très beau, il faut aimer son prochain, c'est magnifique, mais pour organiser l'économie, la diplomatie, donc la relation entre les États, le monde du travail, est-ce que ça suffit? Alors, les papes, lorsqu'ils parlent de la civilisation de l'amour, ils l'accompagnent de cinq piliers qu'on va présenter très rapidement. La liberté, la vérité, la justice, l'amour et le respect de la vie. Alors, une civilisation de l'amour, c'est une civilisation de la liberté. Il n'y a pas d'amour sans liberté. La liberté, c'est cette qualité de la volonté qui permet à l'homme d'avoir l'initiative de son action et d'être maître de lui-même. Certes, s'il y a liberté, ça veut dire qu'on peut en faire un mauvais usage, mais c'est aussi la liberté qui permet à l'homme de se tourner vers Dieu, de chercher le bien et de le réaliser. Donc une civilisation de l'amour, ce n'est pas une société du contrôle, ce n'est pas une société où on force les gens à être vertueux, mais c'est une société où justement la liberté est encouragée parce qu'elle permet à l'homme d'aimer. La vérité. La liberté déconnectée de la vérité, c'est simplement le primat de ma volonté. Et donc au final, ça ne construit pas de véritable relation animée par la charité. L'homme est fait pour connaître le vrai. Et en dernière analyse, cette vérité, c'est le Christ lui-même. Et c'est dans la mesure où l'homme va accueillir cette vérité, qu'il va l'approfondir, qu'il va réaliser sa vocation profonde. La justice nous fait nous insérer dans un ordre que nous n'avons pas créé. Elle nous conduit à rendre à l'autre ce qui lui est dû. À Dieu d'abord, c'est la vertu de religion, et puis ensuite à notre prochain. La vertu de justice inclut le respect pour ceux envers qui nous sommes débiteurs, les membres de nos familles ou notre pays. Alors l'amour, c'est un peu une lapalissade de dire que la civilisation de l'amour, elle est basée sur l'amour, mais c'est parce que la justice toute seule ne peut suffire à animer une société. Elle a besoin de la charité. Dans la justice, on donne à l'autre ce qui lui revient. Dans l'amour, nous donnons nous-mêmes à l'autre. Donc il y a quelque chose de plus. Et puis le respect de la vie, puisque l'amour commence par respecter cette vie qui nous est donnée en don, et d'abord donc la vie des plus faibles, de l'enfant à naître, du vieillard qui doit trouver sa place dans la société pour apporter ce qu'il ne peut lui apporter, de la personne handicapée qui elle aussi a quelque chose à apporter à la société. Et puis ici, bien sûr, la famille a un rôle particulier à jouer. Donc la civilisation de l'amour est un type de société bâtie sur le commandement de l'amour, aimer Dieu d'abord et son prochain comme lui-même. Alors, maintenant, la question qui reste, c'est comment on édifie cette civilisation de l'amour? Qu'est-ce que l'on doit faire pour qu'elle advienne? Alors, on verra d'abord du côté de l'homme qu'est-ce qu'il faut faire, et puis ensuite, qu'est-ce que fait le bon Dieu pour nous aider. Du côté de l'homme, eh bien, il faut d'abord que cette révolution de l'amour, nous la vivions nous-mêmes en première personne. Donc, nous sommes appelés à ouvrir nos cœurs à la charité, donc à la grâce que Dieu déverse en nos cœurs pour nous rendre capables d'aimer comme lui-même a aimé. Donc cela veut dire s'ouvrir à la vie selon les sacrements, donc déjà recevoir la vie de la grâce par le baptême. L'Eucharistie a une importance particulière puisque c'est le sacrement de l'amour qui nous permet de recevoir, d'être configuré au Christ qui vient en quelque sorte aimer à travers nous. C'est le Christ qui aime les autres en nous. Et puis, cette vie spirituelle, il faut qu'elle grandisse, donc à travers la prière personnelle, la méditation quotidienne de la parole de Dieu, la prière du chapelet qui nous fait contempler les mystères de la vie du Seigneur pour que nous puissions les imiter. Voilà. Et puis, tout cela, et donc, tous ces aspects spirituels sont très importants, mais ça ne serait rien sans le combat spirituel. On l'a dit, ce combat entre, il y a un combat contre l'amour vrai. Et ce combat, nous l'expérimentons d'abord dans notre cœur, et le combat spirituel nous permet de mener ce combat. Et le Père ici insistait beaucoup pour dire il n'y aura pas de civilisation de l'amour sans que les chrétiens développent un esprit d'ascèse, de lutte pour acquérir la vertu et se laisser la vie de la grâce se développer en eux. Une fois qu'on a fait ça, et tout en continuant à le faire tous les jours de notre vie, on peut s'engager dans la vie sociale. Et même, c'est notre, on l'a dit, ça appartient à notre nature humaine. On va devoir trouver un travail, fonder une famille si on y est appelé. Et puis ensuite, il y a tous les engagements qu'on peut prendre au niveau de la vie sociale, amicale, les loisirs. Et donc tout cela doit être fait dans un esprit chrétien. Il n'y a pas deux domaines, le domaine spirituel, je suis chrétien le dimanche, et à côté le domaine profane, mais la vie spirituelle imprègne tout le reste. Et les papes ont appelé les chrétiens à veiller à leur unité de vie. C'est un concept très important que Jean-Paul II utilise dans l'exhortation Christi Fideles Laici, qui est un texte centré sur la vocation des laïcs dans l'Église et dans le monde. Donc l'unité de vie, c'est un appel pour que les chrétiens imprègnent toute leur vie professionnelle, encore une fois, amicale, loisirs, etc., de la grâce, de la charité, de la vie selon l'Évangile. Alors bien sûr, la contribution à la vie, à la civilisation de l'amour, elle sera différente selon que l'on est religieux, selon que l'on est marié ou prêtre, mais chacun a un rôle à jouer pour que vienne ce triomphe de l'amour. Mais tout cela serait vain si le ciel n'était pas avec nous. Le psaume 126 nous dit « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain ». L'action de l'homme porte du fruit seulement dans la mesure où elle est soutenue par la grâce, portée par la grâce et qu'elle trouve sa fin en Dieu. Puisque l'amour qui doit fonder la civilisation de l'amour, c'est l'amour selon Dieu, c'est la charité, donc une vertu théologale, alors elle n'adviendra pas sans une action spéciale de Dieu. Alors plus précisément, Dieu est à l'œuvre dans l'histoire. Jésus nous dit dans l'Évangile, « Mon Père est sans cesse à l'œuvre, c'est la providence ». L'histoire n'échappe pas au plan de Dieu, mais Dieu agit par des voies que nous ne connaissons pas, que nous avons du mal à comprendre, mais il dirige l'histoire vers sa fin, et la fin, c'est le retour du Christ dans la gloire avec la victoire du bien, de la vérité, de la lumière. Le Christ, bien sûr, est toujours présent au milieu de nous, il l'est par son Église, et il cherche sans cesse des instruments pour répandre le règne de son amour. Il est déjà victorieux, et ça, c'est la source de notre espérance. Mais je voudrais surtout insister sur le rôle de l'Esprit-Saint, puisque l'Esprit-Saint, c'est l'amour, c'est son nom propre. Il a déjà été donné à la Pentecôte, et donc l'Église vit de l'Esprit-Saint. Mais donc, quand on parle d'une civilisation de l'amour, on parle aussi d'un temps qui est fruit d'une effusion spéciale de l'Esprit-Saint. De notre côté, ça demande de l'invoquer, de chercher à vivre d'une manière toujours plus docile à ses inspirations. C'est lui qui nous apprendra l'amour véritable, c'est lui qui purifie nos cœurs, qui les ouvre à la vérité du Christ et qui déverse en nous ses fruits, que sont la charité, la joie, la paix, la longanimité, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur et la maîtrise de soi. Et puis si on parle de l'Esprit-Saint, on parle forcément de la Vierge Marie. C'est elle qui, par son humilité, l'a attirée, et c'est ainsi qu'elle a pu concevoir le Verbe de vie. Et la Vierge Marie continue aujourd'hui à agir dans les cœurs pour nous rendre toujours plus dociles à l'Esprit-Saint et pour que vienne cette civilisation de l'amour. On dit qu'elle est la mère du bel amour et elle veut éduquer nos cœurs à la ressemblance de son cœur immaculé. Elle veut que nos cœurs soient comme le sien, des cœurs simples et dociles, obéissants, purs, forts, vigilants. Et c'est seulement dans la mesure où nous entrons dans le refuge de son cœur immaculé qu'elle peut nous former à cet amour, qu'elle peut nous rendre dociles à l'Esprit Saint en vue de faire advenir cette civilisation de l'amour. Alors pour terminer, demandons-nous si finalement tout ça, c'est donc le désir d'instaurer cette civilisation de l'amour, on peut l'espérer vraiment, ou bien est-ce que c'est une belle utopie que l'Église a inventée pour nous aider à ne pas tomber dans le désespoir, mais au fond, on est un peu comme ceux qui espèrent les lendemains qui chantent, on ne sait jamais si ça va venir ou pas. Alors d'abord, on peut dire, devant Dieu, nos efforts ne sont jamais vains. Sainte Jeanne d'Arc disait, les hommes combattront et Dieu donnera la victoire. Historiquement, on peut voir certaines périodes de l'histoire où il y a eu un triomphe plus grand des valeurs de l'Évangile. On peut penser à la conversion de l'Empire romain préparée par une armée de martyrs, mais permise par une action merveilleuse de Dieu qui apparaît à Constantin. On peut penser à la Renaissance carolingienne au IXe siècle ou au temps des cathédrales, par exemple. Mais on peut sans doute faire quelque chose, enfin un pas de plus. C'est une lecture personnelle des événements, mais je vous la partage. On peut remarquer déjà que l'expression civilisation de l'amour est apparue au XXe siècle. Et donc peut-être pour dire quelque chose de vraiment spécifique au temps que nous traversons, dans lequel nous sommes entrés plus ou moins depuis la Révolution française, les Lumières. On peut considérer d'abord l'appel des papes depuis Léon XIII à renouveler notre dévotion à l'Esprit-Saint, à intensifier notre dévotion à l'Esprit-Saint. Et ça, c'est corroboré aussi par des saints comme Sainte Elena Guerra ou Sainte Conchita. On peut considérer aussi la croissante intervention de la Vierge Marie dans l'histoire, avec une augmentation depuis le XIXe siècle de ses apparitions. Au XXe siècle aussi, on a vu la naissance de nombreux nouveaux charismes centrés sur l'adoration, sur la dévotion à la Sainte Vierge, sur l'éducation humaine ou spirituelle, le soin des plus pauvres, de ceux qui souffrent. Et puis aussi, on l'a vu, on est dans une période historique où le mal semble déferler avec un pouvoir encore plus grand. Et alors, en considérant tous ces points, on peut se demander si les événements que nous traversons ne nous préparent pas à voir à un moment que Dieu seul connaît et à travers des préparations que lui seul connaît et que nous ne pouvons pas imaginer, ce certain temps de paix que la Vierge Marie a annoncé à Fatima, autrement dit, une époque où la charité régnera davantage dans les cœurs et inspirera les relations entre les hommes. Mais en tous les cas, tout cela dépendra de la fidélité avec laquelle chacun de nous cherchera la sainteté et vivra en cohérence avec les exigences de son baptême. Et mènera aussi le combat spirituel. Alors, en conclusion, tout simplement, accueillons cette invitation à être des saints. Benoît XVI a dit aux jeunes à Cologne en 2005, les vrais révolutionnaires, les vrais réformateurs, comme il disait, ce sont les saints. L'histoire nous a laissé un certain nombre de totalitarismes qui ont voulu transformer le monde, mais ce ne sont pas les totalitarismes, ce n'est pas l'idéologie qui libère l'homme, qui sauve le monde, mais c'est seulement le fait de se tourner vers le Dieu vivant, qui est notre Créateur, le garant de notre liberté, le garant de ce qui est véritablement bon et vrai. La révolution véritable consiste uniquement dans le fait de se tourner sans réserve vers Dieu, qui est la mesure de ce qui est juste et qui est, en même temps, l'amour éternel. Qu'est-ce qui pourrait bien nous sauver, sinon l'amour ? Alors, accueillons cet appel à devenir des âmes aimantes, à devenir nous aussi, des apôtres de l'amour, c'est ce à quoi Mère Marie-Augusta nous appelle, nous dans la communauté, mais pour que nous puissions vous y aider. Alors, comme disait Mère Marie-Augusta, soyons tout amour et nous vaincrons. Il suffit d'un seul apôtre de l'amour pour sauver le monde entier du naufrage.